bienvenue à tous dans À travers livres et revues. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Philippe Malidor. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors Philippe, aujourd'hui vous êtes venu avec un beau livre sous le bras. Son sujet, Qumran ou le secret des manuscrits de la mer morte. Avec vous, nous faisons un bond en arrière de 2000 ans, grosso modo.
C'est ça, oui.
C'est un livre richement illustré, il est construit en 6 chapitres principaux, il est passionnant, ça faut le dire, et ça fait écho à une conférence qui a été donnée récemment, conférence...
Oui, par Michael Langlois, qui est un des spécialistes des manuscrits de la mer morte, et particulièrement du livre d'Enoch. Alors lui, c'est déjà un véritable savant, et il a que 38 ans. Et il nous a fait une conférence d'un enthousiasme tellement communicatif que personne ne s'est endormi. C'était vraiment, vraiment super.
Et voilà, une conférence qui sera diffusée sur RCF en Berry jeudi soir. On commence très naturellement dans ce livre par le contexte géographique, celui de la mer morte, un contexte géographique qui apparaît désertique aujourd'hui, mais... on peut imaginer qu'il n'était pas totalement désertique à l'époque.
Oui, alors effectivement, il semble qu'il y ait eu quelques zones de verdure dans le coin, mais c'était quand même visiblement déjà au moins semi-désertique à l'époque. Quand on voit l'érosion qu'il y a, ce n'est pas une érosion tout à fait récente. Mais en tout cas, c'était habité, puisqu'on trouve les ruines d'un site où habitaient les Esséniens probablement, qui sont une secte, mais pas au sens dépréciatif, hein, une faction juive, qui est probablement celle qui a recopié et conservé ces fameux manuscrits.
Voilà, donc habité. Donc, en bon archéologue, on commence par le contexte géographique, mais on arrive rapidement à cette découverte des grottes recélant les fameux rouleaux. Ça se passe en 1947. Alors, voilà. Cette découverte est, selon certains, la plus importante découverte archéologique du XXe siècle.
Ah oui, c'est un truc sans précédent. Alors, l'histoire, qui est peut-être une légende, on ne sait pas, c'est qu'un petit bédouin aurait perdu une chèvre qui se serait infiltrée dans une des grottes, qui sont des grottes creusées par l'érosion, hein, à flanc des contreforts de la mer morte. Et puis, il va pour rechercher sa biquette et il trouve des jarres avec des manuscrits dedans. Alors, c'est toute une histoire, ces manuscrits, parce qu'évidemment, il voulait faire du fric avec ça. Ça s'est trouvé dispersé chez des antiquaires. Enfin, il y a toute une histoire rocambolesque pour récupérer ces manuscrits. On espère qu'il n'y en a pas qui ont été perdus, mais bref, on pense quand même qu'on a retrouvé la quasi-totalité, ne serait-ce que pour des raisons financières, quoi. Et ce qui est absolument fabuleux dans ces manuscrits de Qumran, c'est que ça a fait faire un bond de 1000 ans en arrière par rapport aux plus vieux manuscrits hébraïques dont on disposait jusqu'à l'époque. C'est-à-dire, quand on lisait la Bible, les plus vieux manuscrits hébraïques dont on disposait dataient, je crois, du 9e siècle de notre ère. Il n'y avait pas de copie plus ancienne. Et cette fois-là, 1000 ans en arrière, on retrouve des copies des mêmes textes avec des variantes très faibles.
C'est un regard totalement nouveau sur la société juive hébraïque du 1er siècle et donc aussi un regard tout à fait nouveau sur la naissance du christianisme.
Oui, et non seulement ça, mais sur la confection de la Bible, parce que la Bible n'était pas fixée. L'Ancien Testament n'a été fixé, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est au 1er ou 2e siècle de notre ère, pour l'Ancien Testament, et puis le Nouveau à peu près dans le même temps. Donc c'était en cours d'élaboration. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve dans les manuscrits de Qumran, il y en a, je crois, 900. Hein.
Oui, Philippe Malidor, finalement, ces manuscrits nombreux, qu'est-ce qu'ils recèlent?
Alors, ils recèlent toute la Bible, sauf le livre d'Esther. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne le trouvera pas. Il y en a peut-être encore à trouver. Hein. Peu de chance, mais ce n'est pas impossible. Mais on a tous les manuscrits, enfin tous les textes bibliques, sauf Esther. Et plusieurs sont en plusieurs exemplaires. Notamment le Deutéronome, les Psaumes et Ésaïe, qui sont les trois, pas best-sellers, puisque ce n'était pas avant, mais les trois plus courants, ce qui est quand même un signe. Et puis on trouve aussi des manuscrits extra-bibliques, comme le document de Damas, la règle de la communauté, qu'est-ce qu'il y a encore, l'apocryphe de Jérémie, enfin je pourrais vous en citer tout un tas, la liturgie de la purification, un apocryphe de l'Exode, etc., qui nous renseigne sur le judaïsme. Et puis aussi le fameux livre d'Enoch.
Alors d'un point de vue archéologique, Philippe Malidor, quelle révolution a apporté cette découverte dans la vision que nous pouvions avoir du judaïsme de l'époque?
Ben, on voit que c'était un judaïsme assez intelligent et ouvert, parce qu'il y a des manuscrits en grec aussi. Il y a des, vous avez des textes bibliques qui sont en hébreu et en grec, je ne sais plus lesquels, mais il y a du grec. Bon. Donc ce n'étaient pas des gens, même si c'était des moines, ils n'étaient pas fermés sur le monde extérieur, bien au contraire.
Ils subissaient la forte influence hellénistique de l'époque. Oui,
bah, oui c'était l'anglais de l'époque, hein, le grec. Hein. Et ça veut dire aussi que contrairement à l'islam, l'hébreu n'est pas une langue absolument sacrée, puisqu'on se permet de la traduire, puisque des juifs se sont permis de traduire les textes hébraïques. Vous connaissez la traduction des Septante, hein, ça a été fait entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après, donc, où tous les textes de l'Ancien Testament ont été traduits en grec, qui sont parfaitement connus. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des prophéties, notamment celle d'Ésaïe, sur le Messie qui allait venir. Jusqu'avant 47, on pouvait dire, oui, les prophéties d'Ésaïe sur le serviteur souffrant sont tellement précises qu'elles ont été écrites après la venue du Christ. Maintenant, on ne peut plus le dire parce qu'elles sont datées de moins 200. Donc, elles ont bien été écrites avant, ça, on en a la certitude. Et puis alors, surtout, vraiment la plus importante, c'est qu'on s'aperçoit, et là, on a la preuve formelle, de la fidélité de la transmission du texte à travers les siècles. Quand vous avez deux textes, plutôt le même texte, avec des copies qui ont 1000 ans d'écart, pratiquement avec des variantes absolument infimes, il suffit de travailler dans un journal pour voir que ça relève du miracle.
Donc effectivement, ça affermit notre connaissance du judaïsme. Ça nous apprend également beaucoup de choses sur cette secte, vous l'avez dit, cette secte des Esséniens. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, nous brosser rapidement le portrait de ces fameux Esséniens qui se sont isolés un peu du monde, sur les rivages de la mer.
Le Nouveau Testament ne les nomme pas, mais on peut supposer que Jésus, enfin c'est certain que Jésus les connaissait. Certains se sont demandé si Jean-Baptiste n'avait pas été parmi eux. Bon, ça reste à voir. C'était en tout cas des gens très soucieux de fidélité, très, très rigoristes. Très clivé au sens, il y a le bien, il y a le mal, les purs, les impurs, un peu comme les pharisiens, mais peut-être en moins hypocrite. Parce qu'il semble qu'effectivement, il me semble avoir compris qu'ils essayaient d'appliquer ce qu'ils disaient avec moins de duplicité que les pharisiens et que certains hommes politiques français.
Ben là, on va fermer la parenthèse, Philippe Malidor. Et finalement, qu'est-ce qui est intéressant dans cet ouvrage? Il faut préciser que c'est un ouvrage qui s'intéresse bien évidemment à ces fameux rouleaux, à ce qu'ils apportent, mais également à l'ensemble de la connaissance de la société juive avec les différentes sectes. On a bien évidemment parlé des Esséniens, il y a les Sadducéens, il y a les Pharisiens, etc. À la sortie de la lecture de ce livre, on apprend énormément de choses sur la société juive de cette époque. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet ouvrage, si ce n'est le fait que c'est un très bel ouvrage?
Ce qui me plaît justement, c'est la mise, comme l'a dit d'ailleurs Michael Langlois, c'est la mise en relief de la formation de la Bible. Si vous voulez, la Bible, on la lit comme quelque chose de figé, définitif, ça y est, c'est classé, c'est plié, etc. Et là, on la voit en formation. Donc on arrive à comprendre un petit peu, enfin, ou à saisir un peu mieux comment les textes se sont élaborés, comment ils ont été sélectionnés, pourquoi on a retenu certains et pas d'autres dans le canon, c'est-à-dire la règle normative, si vous voulez, qui fixe les textes considérés comme sacrés. Tout ça est vraiment très très intéressant.
Philippe Malidor, peut-être pour conclure notre émission, nous donner les références de ce livre, où on peut l'acheter, quelle est la maison d'édition?
Alors, la maison d'édition, c'est rien moins que la Bibliothèque nationale de France. Hein, donc, je rappelle le titre Qumran, le secret des manuscrits de la mer morte. Bon, c'est pas donné, c'est 29 euros, c'est diffusé par Le Seuil, mais franchement, ça vaut la peine d'y mettre un peu d'argent. C'est non seulement un très beau livre, mais un très bon livre, très bien rédigé, très soigneusement rédigé. Je veux dire, belle qualité d'édition, ça compte aussi. Quand on traite des manuscrits de Qumran avec un sens de la copie tout à fait scrupuleux, on est content qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe dedans.
Très bien. Un grand merci, Philippe Malidor, de nous avoir fait découvrir ce livre, Qumran, le secret des manuscrits de la mer morte. À bientôt.
Au revoir.